Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. En vous, mon Dieu, je mets ma confiance, que je n'ai pas à rougir, que je ne devienne pas pour mes ennemis un sujet de moquerie. Non, tous ceux qui espèrent en vous ne seront pas confus. Mes très chers frères, lorsqu'on s'est engagé dans la vie chrétienne, depuis un certain temps, il arrive un moment où nous pouvons constater que nous ne sommes plus ce que nous étions autrefois. Et en même temps, il apparaît aussi clairement que nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Nous sommes comme entre deux eaux, entre deux périodes, entre deux états. Et c'est le moment où souvent nous sommes tentés par le diable de nous lasser de faire le bien. C'est pour ça que saint Paul dit « ne vous lassez pas de faire le bien ». Et nous sommes en quelque sorte dans une sorte de désert. Nous sommes loin de l'état de païen et nous sommes encore loin de l'état vraiment normal de la vie chrétienne, pour ne pas dire du ciel. Ce dixième dimanche après la Pentecôte nous dispense un enseignement qui, avec l'aide de Dieu, eh bien, peut nous aider à sortir d'une ornière qui peut s'avérer plus dangereuse qu'on ne le pense de prime abord. Nous avons donc plusieurs choses à voir, des choses assez simples, mais des choses qui sont plutôt de l'ordre pratique. La première chose que nous avons à voir, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est que nous avons de nombreux ennemis, et que ces nombreux ennemis scrutent notre persévérance pour se moquer de nous. Et c'est là où nous apprendrons que nous dépendons de Dieu pour chaque bonne action que nous devons faire. Ensuite, nous verrons comment s'attendre à Dieu. C'est un des thèmes de cette messe d'aujourd'hui. Comment s'attendre à Dieu, et nous verrons un certain nombre de considérations pratiques qui nous permettront d'être munis de choses, de conseils pratiques. Et enfin, nous terminerons en voyant une pratique à laquelle on ne pense guère et qui est pourtant fondamentale. Vous verrez à la fin de ce sermon, en troisième partie, quelle elle est. Elle est relativement simple, encore faut-il y penser, et si nous la mettons vraiment en pratique, si nous la pratiquons vraiment, eh bien elle peut nous servir, elle peut mener à avoir une grande victoire sur un grand nombre de choses qui sont des problèmes dans notre vie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Les paroles que vous avez entendues au début de ce sermon, ce sont les paroles de l'offertoire. L'offertoire qui est assez long, je les relis. Vers vous, Seigneur, j'élève mon âme, en vous, mon Dieu, je mets ma confiance. Que je n'ai pas à rougir, que je ne devienne pas pour mes ennemis un sujet de moquerie. Non, ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. Depuis notre conversion, mes très chers frères, de nombreux ennemis scrutent notre vie pour ne pas rater l'occasion de se moquer de nous. Ce sont des ennemis de nature extrêmement différente. Nous avons des ennemis mortels, nous avons des ennemis qui sont méchants, et puis nous avons des gens qui se comportent en ennemis parce qu'ils ne sont pas de vrais amis, mais ce ne sont pas non plus des ennemis les plus méchants. Pêle-mêle, ces ennemis, qu'est-ce que c'est? C'est la famille qui n'est pas croyante, ce sont les amis ou les anciens amis que nous avons, ce sont les collègues de travail, puis bien sûr ce sont les démons. Vous voyez, on ne peut pas tous les classifier dans la même catégorie, mais ce sont des gens qui, étant donné qu'ils ne marchent pas sur nous, sur le chemin de la vie éternelle, le chemin du pèlerinage de la vie éternelle, ce sont des gens qui, à divers degrés, peuvent être et même doivent être considérés comme des ennemis, non pas pour que nous leur fassions une guerre, mais pour que nous nous protégions d'eux, sous un certain rapport, même si par un certain côté, ce sont aussi des gens auxquels nous devons témoigner de notre foi selon ce que le Saint-Esprit nous donne de faire, mais ce sont quand même des gens qui nous regardent, et sans même parler des démons, ils nous voient, ils nous regardent, et pourquoi nous regardent-ils en nous scrutant? Parce qu'ils nous connaissent, ils savent ce que nous avons été, ils nous connaissent bien, surtout notre famille, ils savent comment nous étions autrefois, quand nous étions des païens, et ils nous regardent avec une certaine curiosité pour voir si nous allons persévérer. A fortiori, les démons, bien sûr, le diable duquel nous avons été arrachés, au royaume duquel nous avons été, à la puissance duquel nous avons été arrachés, ils nous regardent avec dépit, Il nous regarde en rôdant autour de nous comme un lion rugissant, sachant que nous avons été arrachés à son règne par la miséricorde de Dieu. Nous avons été donnés au Christ, qui nous a fait renaître par le baptême. Et il se trouve que le diable guette l'occasion de se moquer de nous, bien sûr, mais il veut se moquer de nous en nous faisant réintégrer sa servitude. Notre Seigneur, dans un autre évangile, dit que celui qui veut bâtir une tour doit s'asseoir auparavant et calculer la dépense. Alors ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'avant de nous convertir, nous devons réfléchir si nous allons persévérer. Personne ne se pose la question, sachant que ceux qui se convertissent reçoivent des grâces pour être plus courageux, disons qu'ils pourraient l'imaginer ou qu'ils pourraient l'être, de telle sorte que, étant généreux envers le Seigneur, vers le bon Dieu, eh bien, ils s'engagent courageusement dans la voie, sans trop réfléchir à ce qui viendra par la suite. Mais il se trouve que, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons réfléchir à la dépense, c'est-à-dire réfléchir à tout ce que Dieu nous exige de nous, tout ce que la voie de la justice demande de nous, afin que nous puissions éviter que l'on se moque de nous. C'est une parabole, donc nous ne devons pas la prendre dans un sens strictement littéral, au sens où nous pourrions penser que finalement, tout compte fait, nous n'allons pas persévérer, donc nous allons nous arrêter. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de persévérer, de telle sorte que si nous nous rendons compte qu'il nous manque telle ou telle chose, et je pense que c'est la moindre des choses que de s'en rendre compte et de le confesser, alors il faut demander tout ce dont nous avons besoin à Dieu, afin que l'ennemi ne se moque pas de nous. Et il ne s'agit pas ici d'avoir une humilité mal placée en se disant, ben finalement, si ma famille, si mes amis, si le démon se moque de moi, d'une certaine manière, ça ne sera jamais que justice, parce qu'effectivement, je n'aurais pas pu persévérer. Nous n'avons pas le droit de ne pas persévérer. Pourquoi ? Parce que nous ne nous appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas par la nature, parce que Dieu nous a créés pour lui, il nous a fait naître pour lui, et nous ne nous appartenons encore moins par la grâce, puisque Dieu nous a recréés encore plus pour lui, si j'ose dire. Néanmoins, de nombreux ennemis scrutent notre vie chrétienne pour pouvoir se moquer de nous. Nous ne voulons pas être un monument inachevé qui est donc risible, nous l'avons dit. Les moqueries viennent moins, ces moqueries, spécialement les moqueries qui viennent des hommes, viennent moins de la malice humaine que du caractère surnaturel de l'adoption d'une vie nouvelle. Ce n'est pas tellement que nos amis, notre famille mécréante est méchante. Ça veut dire tout simplement que la voie dans laquelle nous nous sommes engagés est une voie surnaturelle. Donc, il est vrai que quand on s'engage dans une voie qui est un peu difficile ou qui est un peu prestigieuse selon le monde, les gens nous regardent un peu avec jalousie pour voir si nous n'allons pas nous casser la figure. Nous entreprenons de grandes études et puis nous n'arrivons pas à avoir les diplômes. Nous échouons. Et évidemment, tous les gens auxquels notre ambition a en quelque sorte déplu parce qu'elle les a rendus jaloux vont se moquer de nous. Évidemment, ça, ce sont des déconvenues selon le monde. D'une certaine manière, ce n'est pas très très important. Mais il se trouve que la malice humaine est excitée par le fait que la vie chrétienne est de nature surnaturelle. Donc, lorsque quelqu'un, ce qui était un mécréant, se convertit et qu'il change de vie du tout au tout avec l'aide par l'influence de la grâce de Dieu, il se trouve que en quelque sorte, ses anciens amis grincent des dents, sachant que même s'ils ne nous supportaient pas à cause de nos faiblesses, à cause de nos vices, à cause de nos méchancetés, d'une certaine manière, ils supportent encore moins le fait que nous ayons été réformés par la grâce de Dieu et que visiblement, notre vie est changée. De telle sorte que notre vie n'est pas simplement plus celle qu'elle était autrefois, donc celle qui est encore celle des mécréants, mais c'est une vie aussi qui les condamne. Parce que nous ne pouvons pas faire le bien sans désirer, mais c'est un fait, sans condamner ceux qui font le mal. Et ceux qui font le mal, c'est-à-dire ceux qui font éventuellement le bien, mais sans l'amour de Dieu, et ceux qui font des péchés, ne peuvent se sentir que, d'une certaine manière, condamnés ou pointés du doigt, non pas volontairement par nous, mais par le nouveau genre de vie que nous avons adopté par la grâce de Dieu. Donc c'est moins la malice humaine qui fait que nos ennemis attendent l'occasion de se moquer de nous, que le caractère surnaturel, c'est-à-dire pour eux incompréhensible, de l'adoption de la nouvelle vie qui est la nôtre par la conversion. Il est écrit à la fin de l'introit, « Non, ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. » Nous ne devons pas envisager, mes très chers frères, la possibilité de l'apostasie, nous ne devons pas envisager la possibilité de ne pas persévérer, nous ne devons pas envisager la perspective de nous retirer avant le temps. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, et bien, d'une manière très certaine, en réalité, comme nous l'avons dit, nous ne nous appartenons pas. Ce n'est pas que nous participons à un championnat sportif et que nous nous arrêtons volontairement parce que nos muscles nous ont lâchés. Nous avons été achetés, rachetés par Dieu, par le sang du Christ, au prix du sang du Christ, et même si nous désirions nous désister, nous ne serions que dans la position d'un esclave qui a été acheté et qui est en fuite. Un esclave qui est en fuite, ce n'est pas quelqu'un qui a renoncé à courir le marathon parce qu'il s'est découvert, il a découvert qu'il avait un trop grand point de côté. C'est, d'une certaine manière, c'est un criminel, il appartient à quelqu'un, il s'enfuit, il n'a pas le droit de s'enfuir puisqu'il appartient à quelqu'un. Il est donc un voleur, voleur de lui-même. Que Dieu nous garde, mes très chers frères, d'être des voleurs de nous-mêmes par rapport au Dieu qui nous possède et qui nous a rachetés, non pas selon la cruauté humaine qui achète l'homme à prix d'argent, mais qui nous a rachetés au prix du sang de son fils, de son propre fils, parce qu'il nous a aimés, et comme nous allons le voir, avant même que nous pensions à l'aimer. Tous ceux qui se confient dans le Seigneur, qui espèrent dans le Seigneur, ne seront pas confondus. Il est écrit « Etenim universi, or tous ceux » tous ceux, quite expectant, qui vous attendent, non confondentur, ne seront pas confondus. Il s'agit donc d'attendre le Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie, attendre le Seigneur? Nous dirions en français courant, s'attendre au Seigneur. Mais là encore, qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, nous devons prendre conscience que cette affirmation n'est pas simplement une affirmation abstraite qui éventuellement ne nous concerne pas. Non, ceux qui espèrent en vous, qui vous attendent, ne seront pas confondus. Ce n'est pas une affirmation qui vient des psaumes et qui, d'une certaine manière, est lettre morte pour nous. C'est une promesse. Vous savez que Dieu nous fait des promesses dans l'Écriture sainte et que ces promesses, ce ne sont pas des choses que nous lisons, ce ne sont pas des pétitions de principe qu'on trouve dans un programme politique et qui ne se réaliseront que dans la mesure où chacun jouera le jeu. Non, les promesses que Dieu nous fait, ce sont des affirmations dont nous pouvons nous emparer, qui proviennent non pas de Dieu en général, mais du Dieu avec lequel nous avons fait alliance ou qui a fait alliance avec nous par le sceau, et cette alliance a été scellée par le baptême. Donc, une promesse que Dieu nous fait, ce n'est pas une promesse même comme un homme très fidèle nous fait, où il y a toujours un risque qu'il n'ait pas la capacité de la tenir. Même la personne la mieux intentionnée du monde, si certaines conditions lui échappent, ne peut pas tenir ses promesses, ce n'est pas vraiment sa faute, mais c'est bien lamentable pour ceux auxquels elle s'adresse. Dieu est tout-puissant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc, le Dieu qui nous a fait ses promesses a la capacité, a les moyens, si j'ose dire, de tenir ses promesses. Et cette promesse est formulée en cette façon, « Non, tous ceux qui espèrent en vous, tous ceux qui s'attendent à vous, ne seront pas confondus. » Donc il y a ici une certitude que nous avons, c'est qu'il est possible que nos ennemis ne se moquent pas de nous, que je ne devienne pas pour mes ennemis un objet de moquerie. Alors évidemment, il ne s'agit encore une fois pas de prendre ici, de s'imaginer que le chrétien tient à persévérer pour éviter que ses ennemis se moquent de lui, au sens pour que son amour-propre ne soit pas froissé, bien entendu. Mais d'une certaine manière, sous un certain rapport, lorsque le chrétien qui finalement abandonne devient un objet de moquerie pour ses ennemis, c'est moins de lui dont il se moque que de Dieu, les ennemis. Donc Dieu est doublement intéressé à nous faire persévérer, premièrement pour qu'on ne se moque pas de nous, de telle sorte que nous soyons puissamment fortifiés à persévérer, et deuxièmement pour qu'on ne se moque pas de lui, puisqu'il se trouve que, selon les vues humaines, si quelqu'un apostasie, le plan de Dieu, le plan salvateur de Dieu sur lui a été mis en échec. Nous savons qu'il ne l'est pas dans l'absolu, mais d'une certaine manière, de toute évidence, quelqu'un qui a été couvert par le sang du Christ, par le baptême, qui a persévéré dans la foi, qui a goûté aux consolations et à la nourriture surnaturelle que l'on trouve au sein de l'Église, et qui s'en va, met l'opprobre sur Dieu. Et les gens disent, finalement, ce bon Dieu n'a pas été capable de retenir cette personne qui est retombée dans sa vie d'avant. C'est une opprobre sur Dieu. Et Dieu n'a pas intérêt à ce que cela arrive. Donc il nous dit, non, croyez bien mes enfants, ceux qui espèrent en moi ne seront pas confondus. Ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. Il y a donc, avec la promesse, une condition. Et la condition, c'est de s'attendre à Dieu. Quite expectant, non confonetur. Ceux qui s'attendent à vous ne seront pas confondus. Toute promesse a une condition, puisque c'est une promesse de type féodal, de type alliantiel, donc il y a une condition. Dieu nous dit, je m'engage à ce que vos ennemis ne se moquent pas de vous, je m'engage à ce que vous ne soyez pas confondus, et quant à vous, engagez-vous pour que cela se réalise à espérer en moi. Donc vous voyez, il ne nous dit pas, moyennant que vous fassiez tous vos efforts, moyennant que, même sans ma grâce, vous soyez capable de persévérer, au moins par la force de votre amour propre dans la voie qui est la vôtre, je vous assure qu'à la fin, vous verrez, vous ne serez pas confondus. Ce n'est pas du tout cela. Ça, c'est peut-être le Dieu des Molinistes qui parle, mais ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'Église catholique. Non, ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. Quelle est la condition pour que nous persévérions? Que nous nous attendions à Dieu. Quitter expectante. Expectante, l'expectation, être dans l'expectative, dans l'expectation, c'est le fait d'attendre quelque chose. S'attendre à Dieu, c'est légèrement différent, mais ça a le même sens. Ça veut dire mettre tout son espoir en lui, d'où la traduction, ceux qui espèrent en vous. Ceux qui s'attendent à vous. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et en un mot, s'attendre à Dieu? S'attendre à Dieu, c'est très clair, c'est très simple et c'est facile à comprendre, mes très chers frères. S'attendre à Dieu, c'est dépendre de sa grâce. Alors, vous allez dire, c'est une réalité passive. Tout le monde dépend de la grâce de Dieu. Les moustiques dépendent de la grâce de Dieu pour trouver une bête à piquer. Les grenouilles dépendent de la grâce de Dieu pour trouver de l'eau ou se rafraîchir. Et les hommes, évidemment, dépendent aussi de la grâce de Dieu pour que la pluie tombe du ciel, pour que les saisons se déroulent bien, etc. Et les chrétiens s'attendent aussi à Dieu pour recevoir ce coup de main qui les aide à persévérer. Ne confondez pas la bonté générale, la grâce très générale du Créateur envers ces créatures, qui leur donnent, même si elles ne le méritent pas, les choses dont elles ont besoin pour vivre, et la grâce très spécifique, qu'on appelle la grâce efficace, que Dieu donne à ses enfants, et à ceux qui vont devenir ses enfants. S'attendre à Dieu, c'est donc dépendre de sa grâce. Et dépendre de sa grâce, ça ne s'invente pas. Donc ça veut dire qu'il faut savoir que nous dépendons de sa grâce, et donc si nous le savons et que nous ne voulons pas que ça reste lettre morte pour nous, nous devons réellement confesser que nous dépendons de sa grâce. Donc vous voyez, nous sommes encore loin des œuvres, nous sommes encore loin des efforts que Dieu nous demande, nous sommes encore loin de tout ça, nous sommes en amont de tout cela. Qu'est-ce que nous demande Dieu dans le cadre de cette promesse qu'il fait dans le cadre de cette alliance qu'il a scellée avec nous, par le sang de son Fils? Il nous demande de confesser que nous avons besoin de sa grâce. Vous allez voir que ce n'est pas encore tout à fait assez, mais c'est déjà le commencement. Souvent, les chrétiens s'imaginent que le bon Dieu leur a donné une sorte de capital de départ, et ensuite que c'est à eux à tirer de leur fonds, à faire fructifier grâce à cette chose que Dieu leur a donnée, cette petite quantité ou grande quantité de grâce, à faire fructifier les choses de telle sorte que, eh bien, ils montrent à Dieu qu'ils sont dignes du ciel. C'est une erreur. Nous ne serons jamais dignes du ciel. Pourquoi? Parce que la dignité du ciel qui est la nôtre et qui doit être la nôtre, nous ne l'avons que dans la mesure où nous recevons cette grâce constamment. Donc, avant même d'en parler, confessons, mes très chers frères, que nous avons besoin de la grâce de Dieu, de telle sorte que nous puissions, par cette confession, être de ceux qui s'attendent à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est donc confesser que nous avons besoin de sa grâce. Écoutez maintenant ce que dit saint Paul au début de l'Épître. Mes frères, vous saviez qu'étant païens, vous alliez comme on vous menait, c'est-à-dire vers les idoles muettes. Le païen est comparé à une bête qu'on mène à l'abattoir en la tirant par la longe, par une corde. Étant païen, c'est ce que nous étions autrefois, vous alliez comme on vous menait. C'est-à-dire qu'on nous menait, quelque chose nous menait, et nous étions menés comme des esclaves, comme des bêtes. Qu'est-ce que ça signifie? L'homme païen, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, est mené comme une bête par ses passions. Il est mené comme une bête par ses passions, et ses passions l'amènent aux idoles muettes. Pourquoi muettes? C'est parce qu'elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas faire alliance avec l'homme qui se confie en elles. Ces idoles sont des idoles, autrefois c'était des idoles d'or, de bois, de pierre, d'argent. Aujourd'hui ce sont des idoles peut-être un tout petit peu plus abstraites, mais ça reste des idoles. Vous voyez, les honneurs, la santé, la bonne vie, la bonne chair, toutes sortes d'autres choses qu'on ne doit pas nommer parmi les saints. Ce sont des idoles, ça reste des idoles muettes, des faux dieux que l'on adore, qui nous sont au pied desquels nous sommes amenés par nos passions, nous sommes amenés tout passivement comme des bêtes, et ces dieux, tout ce qu'ils sont capables de nous faire, c'est de nous faire perdre la vie éternelle, d'ailleurs vie éternelle que nous n'avons pas, c'est pour cela que nous sommes menés comme des bêtes par nos passions. Voilà le triste statut de l'homme païen, de l'homme qui est mené par ses passions. C'est l'homme païen, le mécréant, le gentil, est dans l'illusion de la liberté. Il laisse le libre arbitre se comporter, son libre arbitre faire les choix qui lui viennent spontanément, et c'est toujours ceux de la concupiscence. Même s'il arrive par un effort de volonté, car cela arrive souvent, même s'il arrive à réprimer certaines tendances qu'il a en lui-même, eh bien c'est par l'installation d'autres tendances. Je suis timide et je suis pris de haut par les gens, et donc du coup je vais me réformer par l'orgueil, en développant l'orgueil en moi. Vous voyez, je suis orgueilleux et je suis en horreur à tout le monde parce que je casse les pieds de tout le monde à cause de mon orgueil. Je vais développer une certaine humilité, mais cette humilité ne sera que de l'orgueil dissimulé. Nous avons beau utiliser notre libre arbitre quand on est païen pour nous améliorer, et Dieu sait s'il y a plein de païens qui s'améliorent, bien entendu, mais comme dit notre Père Saint-Augustin, nous troquons ou nous réformons un vice par un autre vice. Et cela arrive au même, nous sommes toujours des bêtes qui vont là où on les mène, aux idoles muettes. Et saint Paul continue. C'est pourquoi je vous déclare que personne parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. Il y a ici une formule, c'est pourquoi, qui introduit la pensée de saint Paul, qui articule la pensée de saint Paul, mais elle n'est pas évidente. Elle n'est évidente évidemment que dans la mesure où on a la tradition d'Église pour l'expliquer, mais si j'ose dire, en amont, elle n'est pas évidente parce que vous allez voir que d'une certaine manière, il y a une sorte de parallèle entre le chrétien et le païen et le chrétien, mais un parallèle qui n'est pas un paradoxe. C'est-à-dire que le « c'est pourquoi » ici, Ideo, notum vatopopis facho, Ideo, c'est pourquoi. Saint Paul nous dit, autrefois, vos passions vous menaient comme des bêtes, et elles vous amenaient au pied des idoles muettes, qui étaient incapables de vous servir, de vous faire du bien. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous êtes, maintenant que vous êtes chrétien, vous êtes toujours sous la motion de quelque chose, mais désormais, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous mène, non pas comme une bête aux idoles muettes, mais il vous mène comme des êtres régénérés, comme des enfants de Dieu, au pied de Dieu, de ce Dieu qui fait alliance avec vous, qui a fait alliance avec vous par le baptême, et qui vous assure, entre autres, cette promesse, non, tous ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. Tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront pas confondus. Donc il y a une sorte de parallèle entre l'état du mécréant, l'état du païen et l'état du chrétien, c'est que les deux sont mus. L'un est mu par ses passions, et la fin c'est la mort, et l'autre est mu par le Saint-Esprit, et sa fin c'est la participation, rien moins qu'à la nature de Dieu. L'homme païen, l'homme mécréant, est dans l'illusion. Ce qui justifie cette illusion, c'est qu'il lui semble qu'il fait ce qu'il veut. Le chrétien, quant à lui, sait qu'il a renoncé à sa volonté propre, et désormais, il sait qu'il est mu par un esprit qui lui a été donné, qui est l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la très sainte Trinité, et de telle sorte que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, en l'occurrence la confession de la foi, puisque dire Jésus est le Seigneur, c'est confesser la foi en un seul mot, en une seule expression, c'est confesser toute la foi chrétienne, il ne peut le dire, disons, selon la foi, il ne le dit pas d'une façon académique, il ne le dit pas de façon descriptive, il le dit d'une façon réelle, il le dit sous la motion du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que nous étions en train de voir ? Nous étions en train de voir que espérer en Dieu, s'attendre à Dieu, c'est confesser que nous avons besoin à chaque instant de la grâce pour faire le bien, pour faire les choses qui plaisent à Dieu, les actions qui plaisent à Dieu. Eh bien, plus précisément, cette grâce, vous l'avez compris, c'est la grâce sanctifiante, spécialement c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre moteur et qui fait que nous attendons à Dieu, Nous agissons, et ça c'est la suite de la confession, qui est la suite de la chose qui nous est demandée dans la conclusion de l'Alliance, notre part, c'est de nous laisser mouvoir par le Saint-Esprit, afin d'attendre, de s'attendre positivement au Seigneur. Continuons notre exploration de cette promesse de Dieu. Non, tous ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. C'est pourquoi, dit saint Paul, c'est pourquoi je vous déclare. Le propre des régénérés, c'est non seulement d'être mû par le Saint-Esprit, comme nous venons de le dire, mais encore d'avoir besoin de l'assistance et de la motion de la grâce pour chaque bonne action. Donc vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'avoir grosso modo besoin du bon Dieu, d'avoir en tout, d'une façon générale, besoin du Saint-Esprit, mais nous devons comprendre que pour chaque action bonne qui nous est donnée de faire, et cela se rapporte essentiellement à son devoir d'État, eh bien pour chaque action bonne qui nous est donnée de faire, nous avons besoin d'une action à une autre, de la même grâce du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous imaginer que nous avons une sorte de réserve de grâce qui nous permet, indépendamment de Dieu, de faire le bien. La grâce, c'est comme la manne, si j'ose dire, de nos pères, que nos pères ramassaient dans le désert. Ils devaient les ramasser jour après jour. S'ils faisaient, parce qu'ils étaient paresseux, une réserve pour 2 jours, de telle sorte que le lendemain matin, ils puissent se reposer, faire la grâce matinée, parce qu'ils avaient de quoi, ils avaient une réserve de manne suffisante pour la journée, eh bien, le bon Dieu permettait que cette nourriture céleste, cette nourriture miraculeuse qui descendait du ciel, eh bien, se corrompe et se remplisse immédiatement de verre. Cela se voit dans l'Écriture, je vous renvoie au passage tel que Moïse le dit. La grâce, c'est comme la manne. Nous en avons besoin chaque jour, à chaque instant, et si nous croyons en faire des réserves, eh bien ces réserves se corrompent immédiatement. S'attendre à Dieu, c'est donc s'attendre action après action, instant après instant, à recevoir la grâce de Dieu, et puisque cette grâce, nous devons la réclamer, c'est la réclamer à chaque instant. Réclamer la grâce de Dieu, c'est réclamer la grâce de Dieu non seulement d'une façon générale, mais d'une façon particulière. Je la réclame pour faire ce que j'ai à faire. Encore une fois, je ne peux pas la réclamer pour en faire une réserve, de telle sorte que par la suite, détournant mes regards de Dieu, je puisse agir avec une certaine joie, avec un esprit pimpant, sans me soucier de Dieu. Si j'ai quelque chose à faire, je demande à Dieu la grâce, sa grâce, pour la faire, sachant que je confesse en même temps, en demandant cette grâce, qu'il me serait absolument impossible de la faire autrement, sachant que même si j'arrivais à la faire, mais par mes propres forces, non seulement elle ne plairait pas à Dieu, mais encore elle serait mue par l'amour propre, par la passion, que sais-je, par l'intérêt propre, ce qui me priverait au moins du mérite, si cela n'ajouterait pas un péché à mon actif. Nous avons besoin de la motion de la grâce pour chaque bonne action. Ça, c'est une des doctrines fondamentales de l'Église sur la doctrine, sur la réalité de la grâce. Ce n'est donc pas une question de faire bonne figure vis-à-vis de ceux qui nous scrutent, que de s'attendre à Dieu. Il nous scrute nos ennemis dont nous avons parlé, il nous scrute pour voir si nous persévérerons. Ce n'est pas que nous devons faire des efforts pour persévérer selon la chair, c'est que nous devons nous attendre à Dieu. Je vous ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Concrètement, c'est très simple. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous occuper de la persévérance finale, nous n'avons pas à nous occuper de la bonne impression que nous faisons auprès de nos ennemis qui nous regardent et qui s'attendent à un moment ou à un autre de nous voir trébucher et nous casser la figure par terre. Nous n'avons pas à y penser. Pourquoi ? Nous n'avons pas à y penser dans la mesure où nous nous attendons à Dieu. Alors vous allez dire, dites-nous comment, techniquement, pratiquement, on doit s'attendre à Dieu. C'est effectivement notre deuxième point. Tous ceux qui s'attendent à Dieu, aucun de ceux qui ne s'attendent à Dieu ne sera confondu. Non, tous ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. Alors, effectivement, comment s'attendre à Dieu? Tout d'abord, et c'est une chose, disons, qui doit remettre en quelque sorte notre attente dans une bonne perspective. Tout d'abord, il nous faut confesser, il nous faut savoir, donc toujours quand nous disons savoir, c'est confesser. Il nous faut savoir qu'être confondu, Ce n'est pas tellement être couvert de confusion auprès de nos amis, de nos ex-amis qui redeviennent nos amis, lorsqu'ils nous accueillent dans la Babylone, et en se moquant de nous, en disant « Ah, ben, finalement, il a voulu construire une tour, et puis finalement, il revient chez nous vivre en appartement. Il a voulu vivre de la vie des élus, vivre de la vie des saints, il a voulu nous faire la leçon, il nous a dit que nous étions des mécréants, que nous étions mus par le diable, etc. Et maintenant, il revient vers nous, et alors, il vous tape sur l'épaule, vous tape sur le ventre, et puis, tout en vous faisant boire, et ils vous disent « Bon, alors, c'est fini les bêtises, maintenant, vous redevenez quelqu'un comme d'entre nous. »